Voilà. Normalement, ça marche. Voilà, on est branché, on est connecté, les amis.
C'est un miracle.
C'est un miracle. Nounou. Alors.
Le
Chaim. Le Chaim.
Qu'est-ce que tu veux,
hein? Un peu de robe. Merci beaucoup. On est là pour faire la tête.
Ben, je sais ce que
je fais. Allez,
Ethan. Non, moi, je vais demander l'autre.
Un petit Lechaim.
Chouïa.
Allez, un petit whisky.
Non, j'ai pas le whisky du tout.
Non. Alors, du rhum.
Ouais, bah, c'est déjà.
Très bon.
Non, bah, un petit rhum. Mais un tout petit, ouais. Sinon je ne pourrais pas faire le chiffre après.
Ouais,
on n'a pas le droit. On n'a pas le droit.
C'est ça qui
ah, non, ça va, je n'enseigne pas la halakha. Ouais. Tu sais ce que c'est de choper à la sortie de la tefila le Shabbat matin. Amen. Et donc il a dit bon, ok, donc il est parti après la tefila, machin, et il l'a chopé juste à la fin de la tefila. Le rav était en train de rentrer chez lui. Il leur a posé sa question, le Rav Dov Lior a répondu, ok, fin de l'histoire. Seulement à ce moment-là, le Rav Cherki lui a dit, bon, maintenant que tu m'as répondu à ma question, j'ai une autre question. En tant que bon juif, comment tu as pu me répondre à ma question? Arrête, tu viens de finir la tefila et donc tu as fait kiddush. Donc, normalement, quand on a bu du vin, on n'a pas le droit de le rod ba'alakha. On n'a pas le droit de donner une alakha quand on a bu du vin. Eh oui, parce que si jamais tu es bourré, tu vas dire des bêtises, machin. Et donc, le Rav Dov Lior, il lui a répondu, il lui a dit, tirez, premièrement, j'ai pas bu beaucoup. Ok, j'ai pas bu beaucoup, on m'a mis un petit fond. Deuxièmement, le vin d'aujourd'hui, c'est pas le vin qui a marqué dans la Gemara, qui était beaucoup plus dur et tout ça, machin. Et troisièmement, c'était du jus de raisin. Donc, ça marche aussi. Tav, donc, RF Tov Lekula, on est très heureux de se retrouver. Et voilà, donc
les... si on est très
ben oui, ben ça y est, à un moment donné.
Très
alors j'ai compris que dimanche c'est la fin du Seger.
Ah ouais,
ça y est.
Enfin, c'est à Dragati. J'ai vu ce que le Misra d'Abriout il a proposé, c'est que dimanche ils ouvrent les GAN et le secteur privé.
Privé, c'est ça.
C'est-à-dire que les commerces, ils peuvent réouvrir.
Mais pas les centres commerciaux.
Pas les centres commerciaux, machin, non, les commerces sans.
Les restaurants aussi.
Non, ah non, non, attention.
Où tu vas, où tu vas.
Après, deux semaines plus tard, ils réouvrent les kitot Aleph à Dalet. Pas encore. Enfin, ça, c'est ce qui est proposé, quoi. Donc, ça nous amène déjà 1er novembre. Ensuite, le 15 novembre. Si j'ai bien compris, il y a encore une autre akala. Bégadol, les plus vieux, enfin, de la Kita Hey jusqu'à Yudbet. Non. Hey Yudbet, ils ont prévu de retourner le 13 décembre.
Oui, juste avant Hanouka.
Voilà, juste avant Hanouka, comme ça c'est bien. Et si j'ai bien compris, c'est également le 13 décembre que les hôtels, les restaurants, machin, réouvrent. Ah, ça, ils n'ont pas dit.
L'aéroport aussi. L'aéroport.
Mais non, mais l'aéroport, il est ouvert, la question, c'est pas ça. L'aéroport, à Gave, il est ouvert là maintenant. Hein.
Il est...
Alors,
il y a...
la question, voilà, c'est est-ce que les gens ils peuvent rentrer sans bidoude ou tout ça? Parce que si tu veux.
Il peut rentrer, il y a des pays.
Ouais, non, pour l'instant, c'est à cause du Seger. Dès que le Seger est fini, tu peux repartir. Bon, écoute, hein. Quoi te dire, je sais pas.
Zemaïs. Ils se réunissent encore demain.
Non. Bien sûr. Et puis ils peuvent nous enlever le Seger et puis nous le remettre, hein, de toute façon.
Non, ça part pour pourrir le troisième.
Tu dis pour pourrir le troisième? Ah, ça y est.
Après, là, on attend encore.
Les gens vont faire pourrir.
Hanouka, ils vont pas nous faire un Seger.
Non, Hanouka.
Pourquoi les gens ils vont pas chez les uns chez les autres allumer les bougies?
Justement, c'est pour ça, ça prend du temps après jusqu'à ce qu'il y ait le prochain Seger.
Ah, c'est ça.
Il y a encore le premier de l'an où ils vont faire à Tel Aviv, ils vont faire le Saint-Sylvestre, etc.
Ah, j'ai compris.
Toutes les ragigotes et tout. Après, il faut
non.
Un mois et demi, ça recommence.
Ah, oui, non. Et c'est quand que c'est fini cette histoire?
Dans 5 ans.
Dans 5 ans, tout de
suite. C'est jamais fini, il y aura un autre avec le permafrost.
Exactement,
j'en ai
entendu. Ça. Bien, le professeur.
Quoi?
Hier soir, il y a un type qui a dit 10, 5 ans, 10 ans.
Et pour vivre d'une autre manière, parce que de toute façon, là, on va en finir dans un an, dans un an, mais des virus, il y en a plein. Et des Covid encore plus, parce qu'on a découvert qu'il y a des chauves-souris qui ont encore deux Covid qu'on ne connaît pas.
On n'est pas obligé de les manger, les chauves-souris, non plus. Il y a un moment donné, peut-être qu'on n'est pas obligé de manger ce genre de truc. Tom, non. Malasse. Donc, Nous, on ne va pas parler du Covid ce soir. Nous, on va parler de Bereshit. Ça y est, on recommence. Puisque on n'avait jamais étudié Bereshit et que ce n'est pas comme si on recommençait tous les ans. Donc, on y va. Mais la question que je vais poser ce soir par rapport à notre étude de la parasha de Bereshit est une question très simple. Quelle est la différence entre les deux personnages que je vais citer maintenant et lequel préfériez-vous être ? Voilà l'histoire d'un homme. Attends, deux secondes, je n'ai pas encore entendu l'histoire. Deux secondes. Voilà l'histoire d'un homme qui est pépère. Il est, tu sais, il a un accent du sud. Il est pépère et il a sa pêche. Et puis, il a pêché, il est tranquille, il pêche. Puis donc, il est au bord de l'eau et puis il pêche. Il est content. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit « Ah, pêcheur, qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, je pêche. » Il est content. Et il lui dit « Écoute, c'est un petit peu idiot de… Parce que tu fais quoi avec tes poissons là ? Avec tes poissons, tu les prends, tu les remets, tu les sers à rien. Moi, je te propose que tes poissons, tu les gardes, tu les revends. » Mademoiselle, est-ce que ça va changer que je vende mes poissons ? Qu'est-ce que ça change ? Il dit « Bah, tu auras plein d'argent. » Il dit « Ah bon ? Et si j'ai plein d'argent, qu'est-ce que je peux faire ? » Bah, tu pourras acheter un filet de pêche et pas seulement une petite canne à pêche. Il dit « Ah bon, c'est intéressant ça. Et qu'est-ce que je ferai avec mon filet ? » Eh bah, ben, tu auras plus de poissons. Il dit « Ah bon ? Alors, tu feras quoi ? Bah, je pourrais tu les vends et tu auras plus d'argent. Tu pourras acheter un bateau et tu pourras aller pêcher en haute mer. Et là, tu auras énormément plus de poissons. Et donc, tu dois être très riche. Et tu pourras faire une entreprise de pêche et de raffinerie de poissons et ce que tu veux. Et puis finalement, tu deviendras milliardaire et tu pourras prendre ta retraite. Et d'accord, je ferai quoi hein ? Et bien, à ce moment-là, tu pourras aller pêcher tranquille.
C'est très profond.
T'as vu ? Donc, Madif, Adif, d'être le premier pêcheur tranquille ou d'être le deuxième pêcheur tranquille ?
Le deuxième. Moi le premier.
Toi, tu es le premier ? Oui. Le deuxième, il est tranquille parce qu'il sait qu'il sait. Oui, il est tranquille, mais il semblerait qu'il vit au jour le jour. Carpe diem. Il n'a pas du tout préparé la retraite de ses enfants, de ses petits-enfants, et ainsi de suite. Ah oui, bon, c'est vrai que je n'ai pas donné tous les détails de l'histoire, certes.
Comme tu le racontes, le premier.
Le premier, hein. En fait, la Sheela, c'est est-ce que on a envie de la noire pour la noire ? Ou est-ce qu'il y a un objectif de la noire à Haré à Avoda ?
Ah oui.
Vous savez, c'est complètement actuel parce qu'on est complètement dans le Séguer. Moi, j'ai la chance et la malchance. Non, maintenant, justement, je ne suis pas Riouni. En signe de la Torah, il paraît que ce n'est pas Riouni. Et Moré Derer, bon, c'est Riouni, mais les touristes, ils ne sont pas là. Donc voilà. Non, j'ai la chance et la malchance d'avoir 4 enfants en bas âge à la maison. Ce qui fait que. Je passe ma journée à me disputer avec eux et le zoom de l'un, le zoom de l'autre, il n'y a pas assez d'écran et lui il a un truc et l'autre elle m'a tiré les cheveux et machin. Et voilà. Ce qui fait que moi, évidemment, j'ai absolument pas le temps de faire quoi que ce soit. J'aimerais bien pouvoir me poser, étudier, si déjà je suis à la maison. Mais non, donc ça c'est une chance et une malchance parce qu'il y a des gens, je pense à tous ces jeunes. Ces jeunes et moins jeunes qui sont à la maison, qui ne sont pas réunis, qui sont à la maison et qui n'ont pas les enfants en bas âge pour leur prendre la tête toute la journée.
Ils ont un ordi chacun aussi, les gosses ?
Alors non, on a 2 ordi et puis il y a les téléphones et machin. C'est la guerre. Parce que le téléphone, au moins là, il sert à quelque chose. Parce qu'il peut faire le zoom. Mais le problème, c'est que quand il s'agit de faire des messimotes, tu ne peux pas faire les travaux, tu ne peux pas les faire sur le téléphone. Il faut un ordinateur quand même. C'est n'importe quoi. Mais le fait est que pour moi, personnellement, je n'ai pas le temps de rien faire. Alors que quand tu regardes des célibataires ou des personnes à la retraite qui ne sont pas réunis, qui sont nécessaires à l'effort de guerre,
à l'économie,
on a besoin qu'ils aillent travailler. Donc, ces gens-là, ils sont à la maison. Et très vite, tu peux ne rien faire.
Non.
Ouais, non.
Tout le temps quelqu'un.
Non, non. Très vite, tu peux.
Oui, oui,
encore une fois, heureusement que toi, tu arrives à ne pas tomber dans le je fous rien. Mais on peut très vite. Moi, je connais plein de jeunes qui sont célibataires, qui ne travaillent pas de la maison parce qu'ils sont en khalat et ce que tu veux.
Bien sûr.
Je veux dire, à un moment donné, combien de séries tu peux regarder ? Maintenant, ce n'est pas seulement ça. Ma question, elle n'est pas seulement là. Elle est OK. Donc, le mec, à 8h, 9h du soir, après avoir passé une dure journée à ne rien foutre, Il est fatigué le soir et il se fait un film. Mais ce n'est pas le même film que celui qui a bossé toute la journée, qui veut se décontracter et qui se fait un bon film tranquille le soir.
D'ailleurs, c'est clair qu'on a toujours, qu'on travaille toujours beaucoup plus à la maison quand on travaille, quand on a du
quand
travail.
Quand tu peux, ouais, naran.
Quand tu ne fais rien, eh ben, tu fais rien.
Tu traînes.
Ah ouais, non mais bien sûr. Et la question, c'est donc le repos de l'après-repos, c'est pas du tout le même que le repos de l'après-travail, de l'après-labeur. Et en fait, la question du judaïsme, c'est cette question-là. Est-ce que nous plaçons le repos comme étant un idéal en soi, ou est-ce que nous plaçons le repos après le travail comme étant un idéal en soi ? Eh bien oui, quand on regarde dans la Torah, eh bien évidemment, vous comprenez où je veux en venir, on arrive on arrive à la création, et dans la création du monde, eh bien on voit qu'Akadosh Baruch Hu va bosser pendant 6 jours, et il arrive au Shabbat. Ce serait une grande erreur de penser que le Shabbat...
C'est Shabbat tous les jours.
Voilà, que c'est Shabbat tous les jours.
Non.
Ou alors que le Shabbat est le seul... J'allais dire une fin en soi. C'est une concrétisation, mais pas en soi. Il faut que pour qu'il y ait Shabbat, il faut qu'il y ait... Je jette Yemé à Maasé. Et oui. Et là, par contre, ça nous amène dans une autre question. Dans une question plus importante, qui est la version... Parce qu'il y a une marloquette entre... les Chachmé à Niglé, c'est-à-dire le Talmud, la Halakha, de comment on décompte la semaine, par rapport à Chachmé à Kabbalah, de comment on décompte la semaine. Pour le Talmud, la Halakha, pour le mainstream du judaïsme, c'est pas compliqué, la semaine elle commence dimanche, elle se termine Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat est la concrétisation de la semaine, c'est la fin de la semaine. Ce qui va très bien avec ce qui est mis en place a priori dans le livre de Bereshit. Mais pour ce qui est des Chachmé à Kabbalah, le Shabbat est au milieu de la semaine. La semaine commence mercredi et se termine mardi. C'est-à-dire qu'il y a mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, mardi. On retrouve ça dans quelques bribes de Halakha, puisque on se souhaite déjà Shabbat Shalom à partir de mercredi et on peut faire la Havdalah jusqu'à mardi.
Les femmes d'intérieur, elles le retrouvent aussi. Hein.
Ah ben, pas que les femmes d'intérieur. Mais tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, ce n'est pas que les femmes d'intérieur, c'est tous les gens de la maison. Depuis mercredi, ça cuisine, et jusqu'à mardi, tu bouffes les restes. Donc, tout tourne autour de Shabbat. Donc, Shabbat est au centre. Sauf que, à ce moment-là, bah, ça veut dire que les mercredis, jeudi, vendredi ne sont pas du tout les mêmes que les dimanches, lundi, mardi. Puisque le mercredi, jeudi, vendredi vont à la préparation de Shabbat, alors que dimanche, lundi, mardi sont la, on va dire les restes, pas seulement alimentaires, mais les restes de ce qu'on a reçu à Shabbat. On s'éloigne là de ce qu'on a reçu à Shabbat, mais on est encore baigné dans l'ambiance du Shabbat. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Israël, aujourd'hui, est au centre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire au centre du monde ? Je ne parle pas au niveau géographique, je parle au niveau de la conception globale de l'histoire. Il y a dans cette planète, pour l'instant, 4 grands pôles de civilisation. Il y a l'Occident, le monde musulman, le monde de l'Extrême-Orient, tout ce qui est à l'est de l'Oural, et Israël. Alors, vous allez me dire, tu as oublié l'Australie. Bon, pour l'instant, l'Australie, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre version un peu plus loin. Ben voilà. Tu me dis, tu as oublié l'Afrique. C'est vrai, mais pour l'instant, l'Afrique n'a pas encore décidé quelle allait être son identité. Il y aura certainement un réveil de l'identité africaine en tant que telle. Et on verra, on en parlera à ce moment-là. Parce que pour l'instant, l'Afrique se décolonise au niveau aussi mental. Donc, ça prend du temps, hein. Bah, les Indes, c'est l'Extrême-Orient.
C'est l'extrême-orient.
La Russie, c'est l'Occident.
Ouais, bah, que la Russie, c'est l'Occident. Je vais te dire, ça, c'est pas compliqué. La Russie a toujours été en contact très proche au niveau économique, politique, machin, avec tout ce qui se passe à l'Occident. Et les États-Unis, j'ai évidemment que c'est la capitale de l'Occident. Donc, si vous voulez, on a 4 grands pôles de civilisation. Aujourd'hui, la guerre, elle est entre l'Occident et le monde musulman. aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Il est évident, à mon sens, qu'il y a un moment donné où l'Extrême-Orient va avoir un rôle fondamental à jouer. Fondamental. D'ailleurs, il semblerait que le rôle que Israël va avoir à jouer face à l'Extrême-Orient n'est absolument pas le même que celui qu'on a à jouer entre le christianisme et l'islam.
Oui, parce qu'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas d'histoire commune.
C'est-à-dire qu'il y a, alors, ça va être quoi notre...
Non, mais il
n'y
a pas d'histoire
commune. Alors, avec l'Extrême-Orient. C'est-à-dire qu'il y a eu une communauté juive à Kaifengfu, c'est vrai, mais bon. C'est-à-dire que si tu écris un livre d'histoire et que tu oublies d'en parler, ce n'est pas non plus la fin du monde, alors que si tu oublies de parler de la Pologne ou du Maroc, tu as oublié quelque chose de quand même fondamental. Donc, effectivement, il n'y a pas de contentieux. Quand on regarde le livre de Ishaïaou, il semblerait qu'il nous donne une piste de lecture, puisqu'il nous dit que « Yesh mi mizrach shemesh et kevodo » c'est la fin du verset « ou mi ma'arav et shem hashem » Alors, en fait, le verset dans le bon sens, c'est « Mima'arav et Shem Hashem, ou Mimizrach Shem Esh et Kevodo ». Semble-t-il que « Bema'arav », et là-dedans j'englobe, et l'islam et le christianisme, tout le monde à l'ouest de l'Oural, il semblerait que là-bas, ce qui se joue, c'est « Shem Hashem ». C'est-à-dire que les Lamed et Shem Hashem. Ou ils ont « Shem Hashem », c'est l'autre « Lamed », c'est moi qui l'ai fait, ils ont « Shem Hashem », « Kimima'arav » Et Shem Hashem.
Ouais,
c'est-à-dire que dans les cultures de l'Occident, on sait nommer Dieu. Que ce soit Dieu, God, Shem, Allah, l'homme Shem. On sait le nommer. Le nom, ça veut dire quelque chose, hein, évidemment. C'est l'objectif, ce que ça représente. Et nous dit le prophète, Ummi Mizrach Shemesh et Kevodo. C'est-à-dire que bah, Mizrach, yesh kavod la Eloah, mais en Shem. Il n'y a pas de nom. Il y a un grand, profond respect pour le transcendant, pour le spirituel, mais on ne le nomme pas. À tel point que la première phrase du Tao de Jin, du taoïsme, dit « Le Tao qui a un nom n'est pas le vrai Tao. » Tu ne peux pas nommer. Donc, qu'en irait que nous, Israël, on est là pour apprendre ce qui manque. Donc, bah, Mizrach, ils ont le Kavod, on va falloir leur réapprendre Shem Hashem, alors que Bamaharav, Yeshem, Aven En Kavod. Tu entends comment les gens ils parlent de ce Dieu dont on connaît le nom, mais comment on le met à toutes les sauces, voire les sauces les plus pas bonnes. Tu vois qu'il y a un problème de Kvod Hashem. Donc il semblerait que ça prend plus de temps d'apprendre, que de réapprendre le Kavod, que d'apprendre Shem Hashem. Donc pour l'instant, notre Hitmo des doutes, elle est face à l'Occident. Mais quand on arrivera en Orient, il faudra réapprendre Shem Hashem. OK ? Maintenant, cette dualité entre Orient et Occident se retrouve également dans les premiers versets du livre de Bereshit. Pourquoi ? Eh bien, parce que, j'ai dit, il y a cette séparation ouest de l'Oural, est de l'Oural. En fait, ce n'est pas que l'Oural, il y a toute une chaîne de barrières naturelles qui forment une séparation entre l'est et l'ouest. Il y a l'Oural, il y a le désert de Gobi, il y a toute une ligne comme ça du nord au sud qui fait une séparation de la planète entre est et ouest. Et la question, c'est si on devait trouver un point commun à tout l'Occident et un point commun à tout l'Orient, évidemment que c'est ultra schématique parce qu'en Extrême-Orient, il y a des civilisations qui sont complètement différentes. L'Inde, ce n'est pas la Chine, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme point commun ? Eh bien, ce serait de dire que en Occident, on aime le progrès. Le progrès. En français, je dirais le changement, l'évolution, la croissance. Alors qu'en Orient, on n'aime pas le changement, on aime la stagnation. Évidemment, c'est ça que je parle. D'ailleurs, un exemple tout bateau. Toutes les découvertes scientifiques du 18e siècle et du 19e qui ont amené à la révolution industrielle de 1840, était déjà connu 700-800 ans plus tôt en Chine. Mais ils n'en ont rien fait. Il y a même une clala, une insulte en chinois, que je ne saurais pas vous dire avec un bon accent, c'est de dire « je te souhaite de vivre dans une époque intéressante ». Ça, c'est une insulte. Genre dans une époque où il se passe plein de trucs. Non, non, on aime quand ça ne bouge pas, quand ça tient, c'est bien. Tu veux changer. Qui te dit que ça sera mieux.
Ils sont en train de s'oxyder en vie.
Alors évidemment, mais évidemment, mais attends, mais attention, évidemment qu'ils sont en train de s'occidentaliser. Il y a eu une vraie prise de pouvoir de l'Occident sur l'Extrême-Orient, bien sûr. Je pense que ça va, il va y avoir un retour de bâton. C'est obligé que les peuples redeviennent ce qu'ils sont. C'est, tu sais comme moi quel a été le premier acte officiel lorsque des relations diplomatiques ont été mises en place entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Hein? Non, d'abord, il leur envoyait un conteneur de coca.
Ah oui.
D'abord. Parce qu'un bon Chinois boive du coca. C'est bien sûr. Donc, en fait, cette dimension de Orient-Occident, j'avance, je stagne, eh bien, évidemment, on va le retrouver dans la Torah. Comment ça, on va le retrouver dans la Torah? Eh bien, quand on a la prise de conscience de ces trois face à trois dans les jours de la création, eh bien, les choses deviennent assez limpide. Puisque finalement, si on y réfléchit deux secondes, le premier jour a été créé la lumière. Le deuxième jour va être créé la séparation entre les eaux du haut et les eaux du bas, ce qu'on va déterminer comme étant Shamaim Vemaim. Le troisième jour va être créé la végétation, les arbres, et ainsi de suite. Et la terre. Enfin, on va laisser place à la terre, la végétation et les arbres. Le quatrième jour va être créé la même chose que le premier, avec du mouvement en plus. C'est-à-dire, le quatrième jour va être créé le soleil, la lune, les étoiles, c'est-à-dire de la lumière qui bouge. Le quatrième jour, c'est donc le complément, le miroir, si on veut, du premier. Le cinquième jour va être créé les oiseaux et les poissons, c'est-à-dire du ciel qui bouge et de l'eau qui bouge. C'est la vie dans le ciel et la vie dans l'eau. C'est le miroir du deuxième jour. Alors que le sixième jour va être créé l'homme et les animaux. La nature, la terre qui bouge. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai que la fleur, elle pousse aussi, que les arbres aussi grandissent et ils bougent. C'est-à-dire, mais au niveau de l'échelle de la vision de l'homme, un arbre, c'est assez statique quand même. C'est-à-dire, donc, on voit qu'on a les trois premiers jours de la création où Dieu a créé des choses qui ne bougent pas. Et les trois derniers jours où on a créé la même chose avec le côté « ça bouge ».
C'est ma vie, c'est le synonyme de la vie.
La vie, c'est ce qui bouge. La vie, c'est ce qui bouge. Quand c'est plein de vie. Mais quand c'est en situation compliquée, il faut qu'il ne bouge pas. C'est-à-dire que si là, je ne bouge pas pendant deux semaines, trois semaines, mon bras, je ne bouge pas du tout. Ben, il va être complètement paralysé, ankylosé, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. D'un autre côté, si je me suis cassé le bras, il ne faut pas qu'il bouge pendant trois semaines pour pouvoir rebouger. C'est-à-dire que la question de est-ce qu'il vaut mieux ne pas bouger ou est-ce qu'il vaut mieux bouger, ça dépend de la situation. Agave, entre parenthèses, digression numéro une de l'année, c'est vrai aussi au niveau de la halakha. Quand est-ce que la halakha, elle doit être shamranit, meod, super gardienne des temps anciens, c'est quand on ne va pas bien. C'est-à-dire, en période d'exil, il est fondamental que la halakha, elle soit ultra shamranit. Parce qu'en période d'exil, le peuple juif, il est dans un état de coma terrible. Et quelqu'un qui est dans un état de dégénération complètement, si tu le bouges, ça peut le détruire complètement. Donc, il ne faut pas qu'il bouge. Alors que quand il retrouve toute sa vitalité, si tu le bloques et que tu ne le bouges pas, à un moment donné, il va, à cause de ça, dépérir. Donc, c'est quand les époques où il y a un chidouche dans la halakha, c'est quand le Ham Israël, il est sur sa terre, indépendant, fort. Alors, à ce moment-là, il peut également avoir une réflexion halakhique qui va faire avancer les choses. Une nouveauté. Ok ? Donc, oui, tout à fait. C'est tout à fait, je n'aurais pas dit mieux. Donc, ça veut dire qu'on se dirige vers des nouveautés halakhiques fantastiques. On est en plein dedans. Les femmes rabbines, ce n'est pas une nouveauté halakhique, c'est une nouveauté pas halakhique. Ouais. C'est une nouveauté, mais pas halakhique. Mais effectivement, la réforme, l'intuition de la réforme, elle est venue de là. Pourquoi est-ce que la réforme n'est pas légitime ? Au niveau légitime, je ne parle pas au niveau des êtres humains, je parle au niveau de ce qu'elle représente comme alternative de judaïsme. La réforme, l'idée de dire qu'il faut faire ce qu'on a toujours fait, c'est même pas seulement une question de modernité, t'as raison, il faut moderniser, machin, mais au-delà de ça, c'est la situation actuelle n'étant pas celle qu'elle a été il y a 300 ans, il faut qu'on re-réfléchisse la chose. Alors, mais l'idée de dire il faut que ça commence à bouger parce que notre situation n'est pas la même qu'avant, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est une vraie réflexion. Maintenant, c'est vrai qu'on était encore en exil, mais c'était l'époque où justement commençaient à se mettre en place les bribes d'un truc. Donc, ce n'est pas pour rien que c'est arrivé à ce moment-là. Maintenant, pourquoi est-ce que ce n'est pas légitime ? Eh bien, parce qu'il n'y a aucun problème. Tu veux que maintenant... Mais la question est de savoir sur quoi tu te bases. C'est-à-dire, est-ce que, pour faire avancer le débat halakhique, tu te bases sur les critères de la halakha ? Ou est-ce que tu dis, les critères de la halakha ne m'intéressent pas, je prends si ça m'intéresse, si ça ne m'intéresse pas, je ne prends pas, et ma réflexion, eh ben, c'est ce qui va être mis en place. Et j'ai donné l'exemple à la choule. Je crois que c'était, je ne sais plus quand est-ce que je donne cet exemple-là, mais j'ai parlé de ce qui s'est passé le lendemain, enfin le deuxième jour de Rosh Hashanah dans cette communauté américaine de New York. Je ne sais pas si vous avez vu, une communauté américaine de New York de réformés, parce que le premier jour de Rosh Hashanah est décédé, comment il s'appelle, Ruth Bader Ginsburg.
Ah oui, oui. Là.
Et il y a une communauté donc libérale, reform, hein, à New York. Qui, alors, ils ont filmé, hein, évidemment, tu peux retrouver ça, évidemment, sur YouTube, bien sûr. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, tu vois le rabbin avec la rabbine à côté, et le rabbin, il fait un speech, et il dit, juste avant la haftara, il dit, voilà, nous avons décidé de changer la traditionnelle haftara aujourd'hui. Alors, parce que c'est quoi la haftara ? Il dit, la haftara, c'est les paroles des prophètes et tout ça. Et nous avons la chance d'avoir vécu une époque où il y avait des prophètes des temps modernes. Ruth Bader Ginsburg était une prophétesse des temps modernes. Nous avons la chance. Donc, nous avons décidé, au lieu de parler de la Haftara qu'on lit généralement, eh bien, on va lire la Haftara, un discours de elle. Avec les Ta'amim, hein, en anglais. Ils vont lire en anglais avec les Ta'amim. Et la rabbine, elle a d'abord fait la bracha. Et après, il a balancé le speech en anglais. Oui, bah pour elle, peut-être c'est un grand honneur, mais ça montre la supercherie. Parce que tu dis, Asher Bachar bin Vim, Tovim, ou Divrei Elohim, Divrei Marim, Behemet. Peut-être que cette dame est très intelligente et qu'elle a dit des choses très importantes et que son combat social est féministe, c'est ce que tu veux. Ok, la malo, même si je me reconnais dans pas beaucoup de choses qu'elle a dit dans sa vie. Plus gauchiste que ça, tu meurs. Mais Bessader,
c'est pas notre problème.
Non, fair enough. Je dis, mais de la mettre au stade de prophète, c'est ne rien comprendre au judaïsme. Hein ? C'est ne rien comprendre au judaïsme. Non, ça montre que les réformés aujourd'hui, leur illégitisme, c'est pas parce qu'ils prônent quelque chose de différent. C'est parce qu'ils ne s'appuient pas comme base de base, sur le judaïsme. C'est-à-dire que lorsque le Rav Botchko, aujourd'hui, il va faire des décisions halakhiques qui sont des chidouchim incroyables, quand Joël, il a ramené la Choveret, là, où il commence à pratiquement permettre énormément de choses, des laits, de Shabbat et tout ça, machin, ça va au-delà de la machine à laver. La machine à laver, tout ça, mais je sais pas. Quand il te dit que maintenant tu n'es plus obligé d'attendre 2 heures dans le froid à Paris pour qu'il y ait un goy qui ouvre la porte, tu as le droit de faire le code, c'est fondamentalement différent de ce qu'on a entendu. Attends, c'est grâce au judaïsme laïque que l'État d'Israël est né. Oui, oui, mais ça n'a, oui, c'est très vrai, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on dit. Ceci étant, c'est très vrai, mais c'est d'un autre côté complètement erroné. Non, c'est très vrai. C'est très vrai parce que concrètement, ce n'est pas les religieux qui ont créé l'État d'Israël. C'est évident. David Ben-Gurion, c'était pas, on ne l'appelait pas Arav David Ben-Gurion. C'est évident. Et je ne vais pas en faire un religieux. Binyamin Zev, Théodore Herzl, il avait une très belle barbe, mais il n'avait pas la kippa qui va avec. Donc, c'est évident que je ne suis pas en train de te dire c'est les religieux qui ont fait l'État d'Israël. Je ne suis pas convaincu qu'il avait une barbe non plus.
Voilà.
Ça a l'air. Mais ça, c'est un autre problème. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est évident que les fondateurs de l'État d'Israël n'étaient pas des religieux, même s'il y en avait quand même. Hein, on ne peut pas mettre de côté le Rav Maimon Fishman, qui est à la droite de Ben-Gurion pendant la déclaration de l'État d'Israël, le Rav Reines. Mais tu as raison, c'est certainement pas. Alors, il faut que c'est encore avant. D'accord, d'accord, tu as raison. Non, c'est sûr que c'est les non-religieux qui ont finalement créé l'État d'Israël. Aval. Aval. Deux secondes, je veux bien que tu me dises ça, mais il va falloir quand même replacer les choses dans leur contexte historique, parce que si les non-religieux, à savoir Ben-Gurion et ses copains, ont réussi à avoir une légitimité au niveau, un, des Juifs, et deux, du monde, de pouvoir proclamer l'État d'Israël, c'est parce que, je te rappelle, qu'il y avait déjà 600 000 Juifs en Israël en 1948. Il y a eu 600 000 Juifs en Israël en 1948 parce que il y a eu les aliotes qui ont commencé avant. Il y avait 400 000 juifs à l'époque de la Shoah. Il y avait déjà de plus la troisième alia, ensuite avant la deuxième, la première alia, 1882, la première alia. Mais avant ça, dans les années 1860, il y a, et c'est les premières aliotes de masse qui vont permettre à avoir une reconstruction, un ersatz de reconstruction, d'abord au niveau démographique, qui va permettre d'avoir une reconstruction politique, eh bien, ça va être l'envoi des élèves du Gaon de Vilna et des élèves du Baal Shem Tov. Donc, c'est vrai que c'est le sionisme laïque qui a créé l'État d'Israël, sans aucun doute, mais ce sionisme laïque s'est basé sur un sionisme complètement toranique qui, 300 ans auparavant, eh bien, avait posé les bases de l'idée. Ceci étant, je comprends ce que tu es en train de dire, c'est parce qu'on vient de parler des réformim et que donc tu dis, non mais attends, les chilonim, les sionistes laïcs dont tu fais référence, mon ami, n'étaient absolument pas réformés. Absolument pas. À aucun moment, et ils étaient complètement contre. Ils étaient complètement contre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Ben-Gurion, il va aller à la synagogue, au temple réformé. Il sait qu'une synagogue, c'est une synagogue orthodoxe, mais il n'y va pas. Ça n'a rien à voir.
Non, mais il sait aussi que si on peut... Si on, la conception même et la possibilité de créer l'État d'Israël, c'est que pendant 2000 ans.
Mais évidemment, dit, évidemment, c'est évident. Donc, on ne remet pas en cause l'histoire. Mais c'est évident, c'est évident, c'est évident. D'ailleurs, entre parenthèses, David Ben-Gurion est un personnage extraordinaire du judaïsme, du peuple juif, de l'histoire, du monde. Il a donné la Géoula au monde et au peuple d'Israël, donc c'est un personnage incontournable. C'est un personnage qui a un mérite absolument incroyable, mais il ne faut pas oublier une chose, il est également lui-même plein de contradictions. Eh oui, parce qu'il a décidé, et c'est comme ça qu'il a demandé d'ailleurs à tous les membres rapprochés de l'Organisation sioniste mondiale, du portefeuille de l'agence juive, ce que tu veux, de prendre des noms juifs. Il fallait changer les noms. Golda Meir, elle ne s'appelait pas Meir à la base. Elle s'appelait Meirson. Et il fallait que... Non, non. Et donc lui aussi. Il s'appelait David Green. Donc il a choisi, hein, on change. Mais il a demandé que les noms, ce soient des noms bibliques, tanachiques. Oui, le problème, c'est que lui, il a choisi un nom qui n'est pas tanachique. Il s'appelle Ben-Gurion. Et Nakdimon Ben-Gurion, c'est dans le Talmud. Or, Nakdimon Ben-Gurion est le dernier, d'après le Talmud, qui profite d'un miracle. Genre, Nakdimon Ben-Gurion, c'est la fin des miracles. En choisissant le nom de Ben-Gurion, eh bien, il dit, voilà, on recommence le miracle. Donc, c'est quelque chose de très, très profond. Maintenant, évidemment qu'ils font partie du projet divin, que le monde est laïque et le monde réformé fait partie du projet divin. C'est pas... Mais ça, en disant ça, on n'a rien dit. Parce que ce n'est pas parce que ça fait partie du projet divin qu'il ne faut pas dire là où c'est Nahon et là où c'est Lo Nahon. C'est-à-dire, justement, parce qu'ils font partie du projet divin, même le monde réformé, c'est pour nous faire prendre une introspection et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le judaïsme et pourquoi est-ce que certaines voies sont légitimes et d'autres non. En conclusion, si toi et moi, on peut discuter avec des arguments bêta-midrashiques et que c'est ça qui va être les arguments qui vont gérer notre discussion, eh bien, c'est bécédère, quel que soit ton avis. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ultra-charedi et ultra-sioniste religieux, c'est le même peuple juif. Pourquoi ? parce que leurs argumentaires est basé sur la même chose, à savoir Chachamenu. Et que si il y en a un qui vient et dit mais comment tu dis que ça c'est la Géoula, il y a marqué dans tel livre. L'autre il peut pas dire ouais non mais ça c'est des bêtises. Non, je reconnais la grandeur de ce que tu me dis, mais je vais le contredire avec un autre rabbin qui a dit autre chose. Et l'autre il va dire ah bon d'accord, alors si tu dis ça alors à ce moment-là ça marche. Mais si tu viens et tu dis oui, c'est vrai que c'est marqué dans le Talmud, ah mais moi je m'en fous.
Il n'y a plus de discussion.
Et en cela, je dis que ce n'est pas légitime. C'est-à-dire donc, tout ça pour dire que quand on voit la création des trois premiers et des trois derniers jours, eh bien, on se rend compte qu'il y a le côté stagnation et le côté évolution. Comment je sais que l'Occident, c'est l'évolution, à part le fait que on vit dedans, donc on sait très bien que c'est ça. Est-ce que c'est marqué quelque part dans la Torah? Eh bien, oui. C'est marqué dans la Torah, alors pas dans notre paracha, dans la paracha de la semaine prochaine, où on a la tour de Babel. Mais comment ça commence, la tour de Babel? La tour de Babel, on nous dit « Vayi benosam mikedem ». Tout commence quand ils ont décidé de voyager depuis l'Orient. Donc, s'ils partent de l'Orient, c'est qu'ils vont aller en Occident. Et là-bas, ils vont construire quelque chose. Donc, tu vois que même d'après la Torah, la première fois où on voit les hommes décider d'évoluer, que la situation Aleph ne leur convient pas et ils veulent faire changer et amener une autre situation, c'est un départ de l'Orient vers l'Occident. D'accord ? Donc, on a ici les trois premiers jours de la création qui sont les jours de la stagnation, les trois derniers jours qui sont les jours du mouvement, et Shabbat. Et donc, tu pourrais penser que le Shabbat, on a dit, c'est la fin du projet. Ben, en fait, non. Le Shabbat, tu dois le mettre au milieu. Et comprendre qu'il y a les trois jours qui nous permettent d'arriver à Shabbat et les trois jours pendant lesquels tu profites sans bouger de la Kedusha du Shabbat. Ok ? S'il n'y a pas eu de trois jours de préparation, il n'y a pas de Shabbat. Miché Tarach BRF Shabbat. Ah ben oui, mais c'est pas pour. Toute personne qui est un tout petit peu en cuisine, il sait ce qui passe. Miché Tarach BRF Shabbat, Yochal BeShabbat. Miché Lo Tarach BRF Shabbat, Lo Yochal BeShabbat. Celui qui a préparé, il mangera. Celui qui n'a pas préparé, il ne mangera pas. Ça, c'est pas chouette. OK ? Donc, eh bien, la création du monde nous met devant une réalité où le peuple juif doit avoir son mot à dire sur quel est l'idéal de la vie de l'homme dans ce monde. À savoir, bosser pour pouvoir ne pas bosser. Avec un Shabbat au milieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que tout ce que tu crées a un but.
Il y a quand même quelque chose, il y a une contradiction un tout petit peu dans le texte, en ce sens qu'il y a marqué « Chèche et Tamine, ta boîte, la cita comme la... »
Ah, évidemment. Bevada, évidemment.
Six jours qui...
Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Rappelons-nous juste une chose. Ces six jours de la création, ils ont duré combien de temps? Six jours de 24 heures.
Non, le temps était différent.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le temps. Ces six jours de la création ne sont pas dans le temps. Ce n'est pas qu'ils ont duré des millions d'années. Ils ne sont pas dans le temps. Comment je sais qu'ils ne sont pas dans le temps? Simplement parce que grammaticalement en parlant, ça ne marche pas. Le premier, on nous dit « Vayer, Voker, Yom ». Le premier. Eh bien non, justement, on aurait dû dire ça. Non plus. Yom Echad. Mais toi, tu comprends parce que tu as traduit. J'ai dit le premier, donc tu as dit Rishon. Ben oui. Comment on dit premier? Rishon. Mazé Echad. Un. Jour 1. Mais alors, ok, d'accord, très bien. Pas de problème. Tu me fais jour 1. Donc le deuxième, tu dois l'appeler comment?
Sheni.
Ah ben non. Qu'est-ce qu'il y a après Echad?
Stein.
Sheni, c'est si on avait dit Rishon. Mais tu me dis dans le deuxième, tu me dis va y évoquer Yom Sheni.
Ah oui.
Et Shirevi Ramishi, qu'est-ce qui se passe? Donc comment on fait? Eh bien Manitou, il expliquait la chose suivante. Le Yom Sheni, c'est un Yom Sheni chez Echad. C'est le deuxième jour qui est un. Le troisième jour, c'est la troisième fois qu'il y a un jour un. C'est-à-dire que chacun des les six jours de la création sont Yom Echad. C'est-à-dire que les six jours de la création sont uniques, et c'est-à-dire qu'ils sont le monde entier. d'une autre façon. C'est-à-dire que, de notre point de vue, Shechet Yamim, Dieu, il les a créés. Même les jours où il a créé des choses qui stagnent, il les a créés. Donc, de notre point de vue, ce sont des Yemé Avoda. Si on veut ressembler à Kadosh Baruch Hu, on doit aussi travailler à cela. C'est-à-dire, on doit aussi travailler à se reposer. Donc, pour nous, oui, Shechet Yamim, Ta'avod, Vasita Kol Melartera. Et on va chez lui, Shabbat, jusqu'au moment où tu arrives à un stade où tu arrives à faire en sorte qu'après le Shabbat, il n'y a pas un retour dans les Shechet Yamim. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à un moment où le Shabbat nous permet de rentrer dans un moment où tu jouis du Shabbat et tu ne te remets pas à bosser. Ah, regarde, entre parenthèses, les chrétiens, ils ont cru y parvenir. Les chrétiens ont cru y parvenir puisque... De leur point de vue, après le Shabbat, il y avait quoi ? Dimanche. C'est-à-dire que de leur point de vue, vu qu'ils étaient déjà arrivés à l'époque messianique, ils ont décalé le jour du Seigneur au huitième jour.
Je me demande si ce n'était pas simplement une... Je ne sais pas.
Une quoi ?
C'est pas seulement au niveau du Shabbat, là, c'est le problème Rishon. Ils ont pris énormément de choses du judaïsme.
Oui.
Ils ont transformé avec des... Pour ne pas faire la même chose. Bar mitzvah, c'est à 13 ans, on va faire ça à 12 ans, on va faire ça à 14 ans, etc.
Bien sûr.
Plein de choses comme ça.
Bien sûr.
Ils ont fait un bruit, on ne va pas faire, etc. Bon, on va faire un baptême. On ne va pas faire le 8e jour, on va, etc., etc. Il y a eu plein de choses comme ça.
Alors, il y a plein de choses comme ça.
Donc, ça veut dire que quand ils ont mis le dimanche,
temps mort.
C'était quelque chose de...
Les chrétiens ont fait trois choses, historiquement parlant. Ils ont fait des actes de... comment dire en français, genre d'Afka, comme tu dis. Genre, eux, ils font ça, nous, on fait autre chose. Mais ils ont surtout adapté des choses qui étaient déjà en place chez les idolâtres chez qui ils ont été mettre en place leur culture. Et ils ont également remasterisé des coutumes, des halakhot, des mitzvot, des minagim juifs. Ils ont adapté des choses par rapport à leur environnement. Ben, Noël, c'est évidemment le plus clair de tous. OK ? Quand tu vois que c'est marqué dans les évangiles qu'il est né à Pessah et qu'ils t'ont vendu qu'il était né à Noël, c'est fantastique. C'est-à-dire, mais on sait pourquoi ça s'est fait. Dire, au niveau historique, c'est-à-dire, on sait ce que c'est les Saturnales et machin, donc il fallait le vendre à Rome. OK. Mais il y a plein de choses qui font, sous prétexte que c'est une remasterisation du judaïsme, alors que c'est tout simplement des minagim juifs qu'ils n'ont pas compris. Le baptême, c'est parce que tout simplement... Jean-Baptiste, Yohanan Amadbil, il a donné le bain à Jésus. Bon, vas-y, il a donné le bain. Il a dit, il va faire un mikvé. Un mikvé, c'est quelque chose qui existe dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'ils en ont fait un truc avec des chips, ça va pas. Mais tu comprends que ce n'est qu'une reprise. Maintenant, quand tu me dis qu'ils ont fait du dafka, j'ai du mal à l'accepter. Parce que, bien sûr que ça existe. Non, je suis tout à fait conscient que ça existe. Mais de dire qu'il n'y a pas derrière... quelque chose qui est théologiquement profond, j'ai du mal à le penser parce que, bon, même sans rentrer dans Freud, même quand tu prends une décision qui a priori n'est basée sur rien, elle est basée sur plein de choses. Ouais. Profondément, elle est basée sur plein de choses. Et à l'époque, que ce soit au Concile de Nicée ou que ce soit dans les différentes mises en place du christianisme, il y a toujours eu une réflexion derrière ce qu'ils ont fait. Donc, quand tu me dis, ils ont fait passer le Shabbat au dimanche, Stam, l'Onirali. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. De la même façon que quand la Révolution elle a voulu faire passer la semaine... Donc, c'est pas... Tu as raison qu'il y a une volonté aussi de dire bon, ce Shabbat, c'est chez les Juifs, nous, on ne fait plus Shabbat.
Il y avait aussi des habitudes qui étaient bien agréables d'avoir un jour de facilité.
Pourquoi pas le Shabbat, alors ?
Parce que si ça avait fait le Shabbat, on était trop près des
Juifs. On était trop près des Juifs. Alors, pourquoi pas le vendredi ?
Même s'il y en a d'autres qui ont le vendredi.
Et les musulmans. Alors, les musulmans, mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'après, du point de vue du christianisme, le Mashiach, il est déjà arrivé. Donc, on est déjà dans l'époque du huitième jour. Donc, ils font passer ça au huitième jour. Pour les musulmans, le Mashiach, c'est même pas une question de Mashiach. L'histoire n'a pas commencé. Parce que tant que le monde, il n'est pas musulman, l'histoire n'a pas commencé. Donc, on est dans le sixième jour. Donc, ils font passer ça au vendredi. Nous, on dit non, on est dans le septième jour. Vébezrat Hashem, on passera dans le huitième. Et quand on passera dans le huitième, ce sera Yom Shekulo Shabbat. C'est pour ça que pour le moment, ben, chaque Motsé Shabbat, ça recommence. C'est comme quand tu faisais des bêtises à l'armée pendant Shabbat, ton supérieur, il te disait, il n'y a pas de problème, rappelle-toi juste qu'à chaque Shabbat, il y a un Motsé Shabbat. Ouais. Pour l'instant, je ne peux pas te punir, mais t'en fais pas, ça viendra. Ça viendra. Donc, c'est de cela qu'on parle, les amis. La création du monde met en place le projet, finalement, du judaïsme, d'apprendre au monde ce que c'est que la notion de Shabbat. Et cette notion de Shabbat, ce n'est pas « je fais rien ». Quand on explique à quelqu'un qu'est-ce que c'est Shabbat, je me rappelle que j'avais eu une grande discussion à Metz, Ira Kodesh, sur ça, parce que c'est obligé. J'étais à rue Paul Michaud.
Bien connu.
Et il y avait là-bas la drouche de Shabbat Agudol. Je n'étais point encore le rabbin de la communauté de Shorashim de Jérusalem. Donc, eh bien, ça m'arrivait de passer Pessah chez mes parents. Donc, je passe chez mes parents, et donc Shabbat Agadol, Shabbat avant Pessah, Drashat Shabbat Agadol. Mon oncle, ce n'est pas lui qui faisait la Drasha, c'était le Rav Van Berger qui faisait la Drasha de Shabbat Agadol. Et des fois, il donnait également à un autre rabbin religieux là-bas, Rav Ardouvin, de faire un petit Dvar Torah aussi. Nounou. Et je me rappelle donc que c'était Shabbat Agadol et qu'il a fait la drouche parlait de Shabbat. Et il avait cru intelligent de dire donc en fait, il faudrait vous expliquer qu'est-ce que c'est Shabbat. Non, parce que tu comprends, l'assemblée, c'était des mécréants, c'était des gens qui n'étaient pas religieux. Il faudrait vous expliquer ce que c'est Shabbat. Venez, on va faire simple. Shabbat, c'est Assur la'asot. Assur la'asot.
Rien faire.
Voilà. On n'a pas le droit de faire. C'est ça, définition de Shabbat, on n'a pas le droit de faire.
C'est lui qui a dit ça ?
Et à ce moment-là, mon oncle me regarde, il me dit « t'as pas l'air d'accord ?» Je dis « effectivement, je suis pas d'accord. » Mais pourtant, c'est pas une question de sionisme. Parce que c'était toujours sur ça que… Ouais. Je dis « non, mais on a le droit de pas être d'accord aussi sur d'autres sujets. » Il me dit « alors, qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai dit, pour moi, la définition de Shabbat, c'est fait pendant 6 jours pour ne rien faire Shabbat. Et si tu as oublié la première partie, tu n'as pas défini Shabbat. C'est-à-dire que dans la définition du Shabbat, il y a, tu vas bosser pendant 6 jours. Parce que sinon, ce n'est pas Shabbat. Parce que Shabbat, c'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose d'avant qui me permet d'arriver à Shabbat. Parce que si Shabbat, c'est juste tu ne fais pas,
c'est intrinsèque quand même. C'est quand tu dis.
Ah bon ? Tu n'as pas entendu parler d'un concept bien connu dans certains milieux, qu'on ne fout rien toute la semaine, puisqu'on étudie la Toiré toute la semaine et que le Shabbat, on étudie aussi la Toiré ?
Non, mais quand tu dis le Shabbat, tu ne fais rien, ça implique quand même que pour arriver à rien faire, c'est que tu as fait avant.
Ah bon ?
C'est pas le cas.
Excuse-moi, moi, j'ai montré à Soukhot, à mes enfants, le film Où je pizine.
Ouais,
c'est Hamoud.
Super.
Mais franchement, le message, il y a des très beaux messages, mais il y a des messages qui sont absurdes.
Mais
le mec, il ne faut rien. Et il n'a pas d'argent parce qu'il ne faut rien. Il est au collèle. Il n'a pas d'argent. Évidemment, il n'a pas d'argent. Et puis, le collèle a décidé de faire des kitsutsim. Genre, on ne peut plus donner autant. Tu n'as pas été assez présent cette année, machin. Tu n'as pas. Va bosser. Non, je ne vais pas bosser. Je vais crier dans la forêt, Dieu, voilà. Dieu, Dieu. Et coup de bol scénaristique, on m'a donné $1000. Je veux bien, mais ce n'est pas ça le message. Le message, si tu as du mal à nourrir ta famille, à un truc.
C'est autre chose. Non, je ne sais pas, mais moi, quand tu dis il a dit ça, quand tu prends la phrase comme il l'a dit,
oui.
Ça implique que tu peux arriver là en faisant quelque chose avant.
Ou pas.
Quoi,
ou pas. D'ailleurs, je vais donner un exemple purement halakhique. Nos sages, ils ont inventé des interdits pendant Shabbat, tu le sais. Ils ont inventé plein de trucs. Par exemple, ils ont inventé que pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de toucher à mon téléphone. Pas de jouer avec, hein, mais de le prendre, de le mettre là. Mouktse. Pourquoi ils ont inventé Mouktse ? Alors,
Pour qu'il y ait une différence.
Alors, non, il y a vraiment des choses que pour ne pas que tu utilises.
Tu commences à prendre ça rien que pour le porter. C'est joli, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Oui,
tu commences à le
faire. Non, mais.
C'est toujours la même chose.
Non, mais les amis, il y a des choses qui sont aussi très, très concrètes. Je veux dire. On est entouré d'appareils électroniques, machin. Tu vas bouger ta souris, ça rallume tout, ça truc. Donc, il y a aussi des choses vraies, mais il y a aussi ce truc que tout ce qui, t'en as pas besoin pendant Shabbat. Dans la Gemara, il y a marqué dans Masoret Shabbat que Bishvil Mizé. Il dit c'est pour les gens qui sont riches, qui de toute façon foutent rien toute la semaine. Puisqu'ils ont des méchartim, je te parle de l'époque, l'époque de la Mishnah, les mecs te disent, des gens qui étaient riches, ils faisaient rien pendant la semaine. Les gens faisaient pour eux. Ils avaient des esclaves, ils avaient des serviteurs, ils avaient des trucs. Ils ne levaient pas le petit doigt pour aller faire quoi que ce soit. Donc, Denis, ces gens-là, hein, on leur fait moukhtse. Pour que quand même, ils ressentent que Shabbat, ce n'est pas comme tous les jours. Parce que pour eux, le Shabbat, le jeudi, le repas, il arrive. Moi, je suis allongé pépère. Le repas, il arrive. Il est chaud, il est bon. C'est pareil. Je ne vois pas ce qui change. Donc, non, on t'a dit, il y a moukhtse pour que tu saches qu'il y a des choses. Donc, alors, sans entrer dans ce cas-là, tout le monde n'est pas avec 25 serviteurs avec lui. Mais. Je me rappelle qu'une fois, tout début de mon mariage, on m'a été invité à Shabbat dans une maison à Yamin Moshe. Et c'était vraiment shkacha, quoi. Il y avait 7 serviteurs. Je ne sais pas s'ils étaient payés pour le Shabbat, ils étaient tout le temps là. Mais en tout cas, la maîtresse de maison, elle n'a pas bougé. Elle avait une clochette. J'avais vraiment l'impression de revenir dans la Mishnah et tout machin. Donc, sans rentrer là-dedans, c'est-à-dire sans rentrer là-dedans que tout le monde n'est pas riche, ok, mais effectivement, Shabbat, dans ta vie de tous les jours, il y a plein de gens qui, je ne te parle pas des trucs, des issourim du quotidien, du téléphone, mais il y a plein de gens qui ne construisent pas le monde, qui ne sont pas occupés à construire le monde dans Shechet Yemei Amaaseh, dans les 6 jours de la création. Ils ont étudié, ils vont truc. Shabbat, c'est pas seulement tu fais pas. Genre, forcément, on va faire. Malheureusement, on voit que c'est pas le cas. On voit qu'il y a plein de gens qui font pas. Il y a une culture qui s'est développée aujourd'hui du limud à Torah qui est une fin en soi. Je suis pour le limud Torah, d'accord ? Mais de dire que c'est plus important que d'aller travailler, c'est un vrai problème. Non. Parce que les yeshiva boucher, c'est tout à fait normal qu'il y ait une partie de ta vie où tu te formes. Mais le yeshiva boucher ne s'appelle plus un yeshiva boucher quand il est marié, dans le langage du yeshiva. Le mec qui est marié, il est avrer. Il n'est plus yeshiva boucher. Reste yeshiva boucher pendant 10 ans, 15 ans, tu ne veux pas te marier, tu veux étudier à Toiré, tu t'occupes que de toi. Bon, bah, c'est-à-dire, tu payeras de toute façon, tu vas payer à la yeshiva ton année pour être nourri, logé, bon, ça, c'est ton problème. Mais à partir du moment où tu as quelqu'un à charge, tu ne dois jamais t'arrêter d'étudier la Torah, chas v'shalom. Mais tu ne peux plus rester à ne faire que ça. La preuve en est, c'est que ça n'a jamais été fait comme ça dans le judaïsme. C'est une nouveauté d'il y a 150 ans. Donc, je dis que de dire Shabbat, c'est tu ne fais pas, ce n'est pas comprendre l'idée du Shabbat. Shabbat, c'est tu fais pendant 6 jours et après, tu ne fais pas. La première partie est tout aussi importante que la seconde. Ça, c'est fondamental. Et une fois que tu as compris ça, hein, alors tu comprends que Vayechulu Hashamayim Vaaretz Vechol Tzevaam Vayechal Elohim Bayom Hashavi Melachto Asher Asa. Lui, il a fini de bousser. Vayevarech Elohim Et Yom Hashavi Vayekadesh Oto. L'objectif, c'est d'arriver à la Kedusha. Vayishbot Bayom Hashavi Mikol Melachto Asher Asa Vayevarech Elohim Et Yom Hashavi Vayekadesh Oto Kivo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim. Ah, mais il a que Bara. Ou lo Asa. Il a fini tout ce qu'il a à ça. Mais Bara, il veut que toi, tu complètes. Shabbat Elohim, la Asot, c'est toi qui dois compléter le projet divin. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si on reprend les paroles de Tehilim qui nous disent que « Ki elef shanim be'enecha ke yom etmol ki yavor » que « mille » que « elef shanim » c'est comme un jour pour toi, c'est-à-dire que eh bien, les 6 jours de la création sont à transposer aux 6000 ans dans lesquels l'homme il doit influer dans le monde pour que finalement, eh bien, on puisse terminer le programme du 7e jour et on pourra écrire dans le Sefer Torah « Vayar Elohim Kitov, Vayi Erev, Vayi Voker, Yom HaShevi » et à ce moment-là, on rentrera dans le 8e jour.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Hazak ou Baruch.
Conclusion, on aurait dû naître 200 ans un peu plus tard, on serait à l'aube du 7e millénaire.
Mais non, on n'aurait pas vécu le corona.
Voilà, ça c'est vrai.